Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue pour la dernière partie de ce Restons courtois du jeudi, Restons courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis toujours avec Étienne Darjac et Valentin Gore et toujours avec François Devoyer qui nous a rejoint au cours d'émission et nous recevons Nicolas Battini. Nicolas Battini, bonsoir.
Bonsoir.
Conseiller,
et merci de votre invitation.
Avec grand plaisir. Conseiller municipal de Bastia, président de Mossa Palatina et allié du Rassemblement National, Nicolas Battini à Paris, les députés se sont prononcés à une courte majorité pour le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse. Ce projet vise à inscrire dans la Constitution un nouveau statut pour l'île, sans remettre en cause son appartenance à la République française. Il résulte des accords conclus entre le gouvernement et une majorité d'élus corses dans le cadre de ce qu'on appelle le processus de Beauvau. Cela dans un contexte de violence insulaire liée à l'assassinat à l'époque en prison d'Ivan Colonna. Qui aurait pu penser, Nicolas Battini, que la mort d'un détenu aurait été l'élément déclencheur d'un tel processus ?
Oui, qui aurait pu le penser, puis surtout qui aurait pu penser que le nationaliste corse le plus célèbre de ces 50 dernières années finirait sa vie dans des circonstances absolument sordides, tué
absolument.
Par un islamiste.
Absolument.
Parce qu'il faut quand même rappeler qu'à la genèse de cette histoire, c'est un islamiste qui a assassiné Ivan Colonna. Hein. D'ailleurs, le refus des mouvements autonomistes dans leur ensemble, en dehors d'une autre qui n'existait pas encore et qui précisément existe aujourd'hui parce que nous avons eu des désaccords sur le discours à tenir, eh bien, excluait de dénoncer la question de l'islamisme. C'est évident qu'aujourd'hui, avec les convergences avec LFI, on comprend mieux pourquoi.
Alors justement, vous étiez contre, vous, ce projet. D'ailleurs, les députés du Rassemblement National ont voté également contre. Et là, on a presque envie de dire, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas très bien et qui ne connaissent pas forcément les nuances du nationalisme corse, vous êtes contre l'autonomie de la Corse, vous êtes contre davantage d'autonomie pour la Corse, Nicolas Battini ?
Nous sommes pour l'autonomie de la Corse, mais pas celle-ci. Et je reprends les termes qui ont été utilisés notamment par Stéphane Rambaud, qui était le député Rassemblement National de la Commission des lois, hein, devant laquelle est passée précisément la loi autonomie, avant de terminer à l'Assemblée nationale, pour être soumise au vote. Stéphane Rambaud l'a très bien dit. Et évidemment, dans le cadre de l'exposé d'un contre-projet porté par Marine Le Pen auquel nous avons participé de façon omniprésente durant ce mois qui vient de s'écouler. Personne aujourd'hui en Corse, et je pense aussi dans l'échiquier politique national, ou en tout cas peu de monde, nie la pertinence d'une autonomie pour la Corse. Mais la question, c'est de savoir quelle autonomie et pourquoi faire. Pour ce qui nous concerne, nous sommes très clairs, et ça a été aussi le sens des propositions qui ont été les nôtres dans le contre-projet avancé par Marine Le Pen, c'est premièrement de créer des contre-pouvoirs en Corse par rapport à l'omnipotence d'un exécutif de la collectivité de Corse qui contrôle absolument tout aujourd'hui, hein, les chambres de commerce et d'industrie, les ports, les aéroports, politiquement la première ville de Haute-Corse, qui a trois députés sur quatre et qui a et dont dépendent à peu près 6 000 salariés territoriaux dans une île de 350 000 habitants.
Bon.
Et qui est aujourd'hui la seule force politique investie par le suffrage depuis la suppression des conseils généraux à l'occasion de la loi NOTRe il y a 10 ans. Et l'autre point, c'est la préférence régionale à laquelle nous sommes parfaitement attachés pour ce qui nous concerne à Mossa Palatina, parce que
vous êtes les seuls en Corse,
avec le Rassemblement National aujourd'hui, évidemment, dans le cadre de notre convergence, avec des députés soi-disant nationalistes, qui sont des autonomistes de gauche et qui sont de gauche avant d'être quoi que ce soit d'autre, qui se sont opposés au fait de favoriser les Corses en Corse. Mmh. Bon, ça a au moins eu le mérite de clarifier un certain nombre de positions idéologiques.
Alors, ceci dit, ils n'ont pas été les seuls, puisque Laurent Marcangeli aussi, député Horizon de Corse, a lui aussi dénoncé ce principe.
Oui, mais il est cohérent avec son extrême centrisme. Mmh. Voilà. On attend plus d'un macronien son opposition à des logiques de priorité nationale ou de priorité régionale que de gens qui se revendiquent du nationalisme corse ou de quelque autre nationalisme que ce soit d'ailleurs.
Ouais. Et vous n'avez pas fait le calcul de il vaut peut-être mieux accepter cela, même si c'est imparfait, même s'il manque des éléments dont celui que vous aviez évoqué, parce que après tout, plus d'autonomie de la Corse, ça va quand même dans votre sens, et ça peut être aussi retravaillé en amont, après, je sais pas, une éventuelle prise de pouvoir en 2027, ou que sais-je. Il n'y a pas eu ce pari-là qui a été fait.
Non, nous avons refusé ce pari-là, parce que il nous semblait totalement incohérent, d'un point de vue idéologique. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de cohérence et de convergence avec le Rassemblement national, hein, aussi dans une logique de prise de pouvoir politique en Corse. Ça implique aussi de la clarté politique dans le cadre d'un projet global, et pas seulement sur telle ou telle mesure. Oui, je pense que je pourrais, à titre personnel et même à titre politique, être d'accord avec quelques mesures proposées par Jean-Luc Mélenchon. C'est pas pour autant que je vais voter pour lui au présidentiel.
Et François Devoyer, vous avez une question, une remarque pour Nicolas Battini.
Première question toute bête, on se connaît un peu, mais je ne comprends pas la signification du nom de votre parti, Moussa Palatine. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Alors, bien sûr, Moussa Paladino veut dire littéralement le mouvement de Paladino. Donc, Paladino, qui est l'association métapolitique qui nous a permis, avant la création de Moussa Paladino, d'établir doctrinalement un nationalisme corse qui se voulait rompre avec l'indépendantisme et se tourner vers le camp national dans une logique de convergence sur les questions migratoires et civilisationnelles. Et notre association métapolitique Paladino tire son nom de ces menhirs qui ont été dressés dans toute la Corse à partir du néolithique. Voilà. Donc c'est un ancrage historique à la fois pré-chrétien, hein, mais aussi chrétien, parce que les archéologues ont appelé ces pierres dressées paladines en référence aussi à ce que ça veut dire en Corse, c'est-à-dire de chevaliers, des paladins.
Un beau syncrétisme corse. Bravo.
Absolument. Les Corses sont résolument catholiques, mais farouchement païens.
Exactement. C'était Peggy qui disait plus ou moins qu'il fallait être un très bon païen pour devenir un très bon catholique.
Bien joué, la station de pays. François
Devoyer. Autre question, comment ressentez-vous l'état d'esprit de la Corse quand on a discuté? Bon, voilà, c'était déjà assez favorable au Rassemblement national, en tout cas pour les élections justement nationales. Est-ce que vous pensez que ce sera un raz-de-marée en 2027 pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore un attentisme, que cette loi autonomie pourrait changer la donne? Qu'est-ce que vous ressentez sur le terrain?
Eh bien, écoutez, avec un logiciel parfaitement jacobin qui n'était pas, c'est le moins qu'on puisse dire, en adéquation avec les aspirations pour le moins identitaires et autonomistes des Corses, hein, qui, des Corses, dans leur globalité, y compris ceux qui votent sans problème pour Marine Le Pen, eh bien, malgré cette dissonance, Marine Le Pen a réalisé son score le plus haut au second tour des présidentielles dans toute la France métropolitaine, à savoir 58%. Résultat régional, hein, j'entends, régional. Bon, 58%, sans véritable relais locaux, sans véritable structuration et sans véritable imprégnation dans le débat public local et insulaire. Bon, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, alors qu'une réforme doctrinale et idéologique a été entreprise avec notre concert et notre concours, avec aujourd'hui un enracinement dans les trois principaux conseils municipaux de l'île, et avec en effet une convergence permanente, hein, entre notre action et les prises de position du Rassemblement national. Bon, il est évident, et le discrédit qui peut être celui aujourd'hui, partiellement en tout cas, mais de façon tout à fait importante et significative, à la fois de la majorité présidentielle et de leurs alter ego locaux, si j'ose dire, de leur déclinaison locale, quelle est la majorité territoriale menée par Gilles Simeone, et il est évident qu'on ne pourra faire que plus. Voilà. Et de là, après dire un raz-de-marée, vous savez, s'il y a bien quelque chose à ne pas faire en politique, c'est c'est se montrer trop optimiste. Donc, en tout cas, ça ne nous empêche pas d'établir, ou BA, en tout cas, ça ne nous empêche pas d'établir un certain nombre de perspectives tout à fait positives à partir des éléments et des paramètres factuels dont nous disposons. Mmh. Et il est évident que nous nous attendons à réaliser des scores absolument conséquents qui feront très certainement partie des résultats les plus importants de toute la France métropolitaine. Sinon, la région donnant le résultat le plus haut à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella au second tour des prochaines présidentielles.
Valentin Gore, vous avez une question pour Nicolas Battini.
Oui, cher monsieur, une question assez simple et directe. Comment vous analysez le changement de doctrine, là aussi tout à fait de l'autre côté de l'échiquier politique, de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est dit ouvert à l'autonomie de la Corse, en parallèle ouvert aussi et favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Évidemment, là aussi, c'est la fin d'un certain jacobinisme de ce côté-là.
Je vais compléter la question de Valentin Gore, juste pour informer nos auditeurs que c'est le groupe La France Insoumise qui a fait basculer le vote en plus, puisque c'était eux qui détenaient un petit peu la clé. Et qu'ils ont préféré être cohérents en reliant la Corse à la géopolitique. Absolument. Plutôt qu'à la politique intérieure. Nicolas Battini.
Et ils ont soumis leur soutien à ce vote à la condition suivante, le vote de l'amendement numéro 111 précisait bien et qui stipulait que dans le cadre d'une éventuelle autonomie, tout habitant, tout citoyen en Corse serait à égalité de droit, ce qui implique nécessairement l'impossibilité de réaliser toute logique de préférence régionale, etc. Donc c'était un débat parfaitement bienvenu d'un point de vue idéologique et doctrinal. Comment expliquer le revirement de Mélenchon? Tout simplement par la polarisation. Mmh. Les mêmes raisons qui font que le nationalisme corse se scinde en deux. D'un côté, des nationalistes qui veulent converger avec la pensée décoloniale, avec la continuité finalement du tiers-mondisme et avec la Nouvelle-France, c'est le camp de Gilles Simeoni, implique aussi le contraire, ce sont d'autres patriotes corses et des nationalistes que je représente qui se tournent vers le camp national dans des logiques en effet d'harmonisation des revendications, en ayant bien conscience, c'est le cas de tous les acteurs de ce jeu, que le grand conflit politique qui va structurer ce siècle, eh bien, va opposer ces deux camps que je viens d'exposer. Donc, par conséquent, il est évident qu'il y a des sortes de recompositions mimétiques parallèles qui se font dans une logique tout à fait cohérente de part et d'autre. C'est précisément à travers ce prisme d'analyse-là que nous expliquons le repositionnement de Jean-Luc Mélenchon avec des nationaux de gauche, comme on peut expliquer le repositionnement de Marine Le Pen sur ces questions-là avec des nationaux de droite ou populistes, quel que soit le terme qu'on utilise. Voilà. Je pense que c'est évident. Et que la grande nouveauté, c'est qu'une grande partie de l'opinion publique en Corse a déjà commencé à le comprendre depuis notre émergence, l'a parfaitement compris depuis la validation du suffrage en faveur des propositions que nous avons défendu lors des dernières municipales. Et je pense que cette autre séquence qui vient de se terminer acte en effet le fait que nous avons franchi un pas supplémentaire dans le sens de cette pleine compréhension des enjeux qui viennent.
La question est un petit peu hors sujet, pardon, mais du coup ça m'interroge. Comment vous expliquez que le Front National devenu Rassemblement National ait mis beaucoup de temps avant de réussir à s'implanter en Corse et que finalement il ait trouvé peut-être plus commode, plus pratique de se servir de vous, mais en tout cas de contracter une alliance avec vous pour justement peut-être imposer une marque beaucoup plus corse compatible en quelque sorte?
Non, c'est une question totalement pertinente. Hein. Elle est pas hors sujet. On est en plein dans
le sujet. Par rapport à l'autonomie de la Corse, si, mais par rapport au sujet politique, non.
Oui, mais ça reste lié malgré tout. Ça reste lié parce que même si j'ai décrit la chose à travers des mécanismes profonds qui rythment l'histoire des hommes, ces mécanismes profonds ont toujours besoin de la petite histoire et des personnalités qui s'entendent aussi pour réaliser des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui les dépassent. Ouais. Lorsque j'ai rencontré Marine Le Pen l'année dernière, elle m'a confié la chose suivante. Elle m'a dit qu'elle était parfaitement sensible depuis toujours, en particulier depuis plusieurs années, à ces questions de revendication, d'identité, de culture régionale, de plus de liberté locale. Mais elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit « j'ai jamais pu vraiment me positionner publiquement à ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je voulais prendre une position plutôt favorable et évoluer sur la question, j'avais pour seul interlocuteur des gauchistes anti-français. Bon, ce n'est pas le cas avec vous, on va pouvoir travailler. »
Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, mais il n'y avait pas, parce qu'elle a quand même réussi à présenter des candidats quand même dans les élections. Il y a une antenne locale du Front National, Rassemblement National en Corse, il y a toujours eu des candidats, mais ils n'ont pas réussi à implanter une véritable fédération avec un vivier de militants, avec...
Écoutez, encore une fois, pour s'implanter dans un écosystème aussi particulier qu'est la Corse, il faut nécessairement avoir ses entrées autochtones.
Ouais.
Il faut faire partie du club et faire partie du peuple. Lorsque l'on voit le Rassemblement national qui réalise 58% des suffrages exprimés au second tour des présidentielles et qui ne réalise que 5% au territorial, il est évident qu'il y avait un petit travail de structuration et d'incarnation à parfaire et à compléter, ce qui est le cas dès lors que nous avons établi cette alliance sur une base programmatique cohérente avec la réalité et les aspirations des Corses, avec pour boussole ce que nous préconisions auprès de Marine et de Jordan. Eh bien, nous réalisons quasiment 20% aux élections municipales, nous entrons dans 3 conseils municipaux les plus importants, et nous devenons de facto une force politique absolument incontournable.
Et en France, depuis, alors est-ce que, je pense que c'est en partie lié au sujet corse, peut-être aussi au sujet néo-calédonien, les régionalismes ont le vent en poupe, on voit se lever de manière beaucoup plus affirmée les velléités de groupes indépendantistes bretons, basques, même l'Alsace est en train de, l'Alsace et les Alsaciens sont en train de se constituer en véritable force politique en faveur du davantage d'autonomie justement pour la région de l'Est. On parle aussi de la Franche-Comté, etc. Enfin, on a l'impression qu'il y a un regain, si vous voulez, de volonté pas sécessionniste de la République, mais en tout cas d'autonomisation vis-à-vis de la République. Est-ce que c'est vis-à-vis de la France politiquement ? Est-ce que c'est vis-à-vis de Paris ? Est-ce que c'est une réaction populaire vis-à-vis des élites ? Comment vous attribuez cela, vous, vu de Corse, en tout cas ?
Non, je pense que ça s'inscrit tout simplement dans le réveil identitaire des peuples, des peuples européens. C'est pour ça que, pour ce qui me concerne, je suis partisan d'une totale différenciation avec la question de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, moi, je suis un nationaliste corse. Si je dois exprimer une solidarité quelconque vis-à-vis d'un ou de l'autre des camps en Nouvelle-Calédonie, moi je suis un Européen, je me sens proche des Caldoches, d'ailleurs qui comptent énormément de Caldoches d'origine corse. Vous savez qu'il y a même une ville, Farino, qui a été nommée, bâtie et construite par des Corses qui étaient très nombreux parce que les Corses ont été la pointe avancée de la colonisation française un peu partout dans le monde. Voilà.
Donc, ouais, c'est en Algérie notamment,
Et notamment l'Algérie. C'est la lecture que nous avons, qui est une lecture européenne et qui est en rupture totale avec la lecture tiers-mondiste de nos frères ennemis dans le nationalisme corse, qui se prennent pour des Indochinois ou des Algériens, alors que nos grands-parents colonisaient l'Indochine et l'Algérie. Bref, mais je pense qu'il y a quelque chose à bien comprendre dans cette histoire des régionalismes. Il y a des réalités ethno-culturelles incontournables. C'est normal que les Alsaciens se sentent Alsaciens. Ils se sentiront toujours Alsaciens, à moins qu'on les remplace. C'est la même chose pour les Bretons, c'est la même chose pour les Basques, c'est la même chose pour les Corses, c'est la même chose pour toutes les réalités ethno-culturelles qui composent la réalité culturelle de la France dans tout ce qu'elle a de diversité autochtone. Bon. Ou bien on prend en compte ces sentiments et on permet l'établissement de régionalisme ou d'autonomisme qui s'harmonise éventuellement de façon tout à fait évidente et spontanée avec le patriotisme français, dans une logique de petite et de grande patrie, qui ne s'opposent pas, mais qui sont complémentaires l'une de l'autre, et dont les substances respectives participent d'un tout commun et d'une identité nationale qui s'accommode, non seulement s'accommode, mais se fait la garante aussi de la protection des identités régionales, ou bien on nie ces identités régionales et on les jette dans les bras de l'anti-France. Il n'y a pas d'autre équation que celle-ci.
Valentin Gore, vous avez une question pour Nicolas Battini.
Oui, une question, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On a vu en Europe que, bien sûr, la reconnaissance des identités régionales, elle est absolument à faire, et notamment en France, où on est encore très, très unitaire, et la République a imposé un carcan souvent trop ferme et trop dur vis-à-vis des identités régionales. Mais évidemment, vos opposants vous opposeront justement l'Écosse, la Catalogne, qui sont un peu des anti-modèles de ce point de vue-là. Le Pays Basque aussi, avec des volontés là assez claires de la part des régionalistes qui sont devenus un peu des autonomistes et ensuite même parfois des indépendantistes.
Bien sûr, mais précisément, Non, ce n'est pas un contre-exemple. C'est le prolongement de ce que je dis. Pourquoi ? Premièrement, parce que ce sont des réalités absolument différentes d'un point de vue historique. Bon, la France s'est constituée autour d'un État centralisé et n'avait pas, je dirais, d'harmonisation ethno-culturelle de la pointe la plus au nord à la pointe la plus au sud. C'est quelque chose qui a été construit, notamment sous la Troisième République. Bon, et essentiellement d'un point de vue linguistique, à partir de la Première Guerre mondiale. Il faut quand même rappeler que lorsque l'abbé Grégoire produit son rapport pendant la Révolution, il fait le tour des possessions et des territoires de France. Il rentre devant l'Assemblée, il dit voilà, sur 21 millions d'habitants, on a 3 millions de locuteurs qui parlent le français. C'était Absolument. Cette réalité-là. Bon, donc par conséquent, ce sont des réalités historiques aussi totalement différentes. C'est vrai, par rapport à l'Espagne, le Royaume-Uni, ou encore plus que l'Allemagne ou l'Italie. Bref. Mais concernant l'Espagne, justement, le nationalisme catalan s'est constitué par opposition aussi, pas seulement, hein, qu'il y a eu un nationalisme catalan avant le franquisme, mais lors de ce dernier siècle qui vient de s'écouler, le nationalisme catalan, comme le nationalisme basque, dans la poussée des tiers-mondistes 68, des tiers-mondismes 68ards dans toute l'Europe, se sont constitués par opposition au franquisme, qui était le tenant de la pensée nationaliste en Espagne à ce moment-là. Il y a par conséquent des héritages. Vous remarquerez néanmoins qu'il y a un nationalisme, même catalan, de droite et identitaire, opposé à l'immigration, qui commence à émerger petit à petit. Et
oui, c'est nouveau, mais c'est effectivement, c'était tout à fait de gauche, ben jusqu'à oui. très peu de temps.
Absolument, mais pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est la même chose au Royaume-Uni, et c'est parce que tout ceci aussi s'inscrivait dans une logique d'après la Seconde Guerre mondiale, qui a poussé les régionalismes dans les bras de la pensée de gauche. Mais pourquoi ? Parce que tous ces nationalismes sont issus de pensées profondément de droite, tellement à droite que la plupart de leurs acteurs se sont compromis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on laissait le champ libre d'un point de vue idéologique à ceux qui se sont saisis de ces thématiques et de ce créneau et qui étaient tous, globalement, des gens de gauche qui, encore une fois, se prenaient tous pour des Nord-Africains ou pour des Vietnamiens colonisés. Bon. Donc, il y a aussi une histoire derrière tout ceci. Mais ça n'implique pas une définition de l'essence de ces revendications en ce que ces revendications s'inscrivent toujours dans un contexte, mais nous en sommes, pour ce qui nous concerne, aussi la preuve. Mais on pourrait aussi parler de la Flandre, par exemple, oui. qui a un nationalisme qui est tout à fait de droite, civilisationnel, identitaire, mais qui s'inscrit aussi dans une autre réalité, qui est celle de la Belgique, et qui n'est absolument pas comparable avec le contexte français.
J'ai presque envie de faire l'avocat du diable, ou plutôt de Simeoni, Nicolas Battini.
Il en a
c'est
besoin.
Vrai, non mais c'est vrai que quand on l'écoute et qu'il nous explique que la Corse, c'est un territoire qui a connu énormément de propriétaires, énormément de changements de population, ça a été conquis par les Maures, par les Génois, par les Français, etc. Est-ce que le sens de la culture corse, c'est justement, ce serait pas justement l'accueil de l'étranger, en quelque sorte?
Mais parce qu'il raconte des histoires, Simeone. Lui, il a une formation d'avocat, mais moi j'ai une formation d'historien. Bon, s'il y a bien un pays en Méditerranée, qui n'a jamais accueilli personne, qui ne s'est quasiment pas mélangé en dehors de ces 50 dernières années, parce qu'en effet, l'explosion des moyens de communication et de transport a fait que les Corses aussi sont partis un peu partout. Et il y a eu d'ailleurs, c'est vrai, la génération dont je suis issu est certainement la génération la plus métissée.
Ah bah, le 5e arrondissement de Paris, c'est l'arrondissement des Corses. Hein. Enfin, vous voyez, je veux dire, ils sont partout.
Et les plus grandes villes corses du monde étaient Paris et Marseille. Bon, et beaucoup de ces Corses qui sont partis, qui ont constitué la diaspora, sont rentrés en Corse en ayant épousé une Parisienne ou une Marseillaise. Bon, donc mais ça, c'est l'histoire récente de la Corse. Vous m'accorderez qu'il y a, plus exotique lorsqu'on est européen qu'une Parisienne ou qu'une Marseillaise. Bref, bon. Mais concernant l'histoire de la Corse, vous savez, il y a eu deux grandes phases de peuplement de la Corse. Il y a eu 8000 avant Jésus-Christ, et il y a eu ensuite la romanisation. Après cela, il n'y a eu quasiment aucune implantation humaine, et lorsqu'on parle des Maures, des Lombards, des Byzantins, des Goths, de ceci et de cela, on parle de changements d'autorité politique, pas de grands mouvements d'ensemble. Qu'est-ce qu'ils allaient faire, les grands mouvements d'ensemble, de population, sur une île quasiment stérile, très peu productive, et enclavée de vallées montagneuses en vallées montagneuses? Non, c'est absurde. Tout ceci est une réécriture de l'histoire qui a été faite par des gens qui, en effet, ont investi le nationalisme corse et ont voulu le rendre compatible dans leur milieu progressiste parisien. C'est ça, la réalité.
C'est pour se donner des armes pour accéder à l'indépendance, en fait. S'ils se sont aperçus que ça faisait un discours plus efficace.
Oui, c'était un discours qui leur permettait d'être audible et fréquentable dans les milieux de gauche. Ouais. Donc, il fallait réinventer cette histoire. Il fallait réinventer un Pasquale Baoli progressiste, alors que Pasquale Baoli, lors de sa dernière séquence politique, rompt avec le comité de salut public et décrète la sécession de la Corse en 1794, pas au nom d'un vœu indépendantiste, mais au nom de la défense du culte catholique et des libertés civiles. Et lorsqu'il appelle les Anglais en 1994 pour fonder avec eux le royaume anglo-corse qui va durer 2 ans, il fait inscrire dans la constitution du royaume anglo-corse le catholicisme comme religion d'État. Bon, ils ont réussi à en faire un pré-woke mélenchonien et Mélenchon, qui cite Paoli en disant qu'il était un jacobin, mais en oubliant d'évoquer l'aboutissement de tout ceci. Et un autre exemple que nous posons souvent d'un point de vue historique, la Corse est cernée par 100 tours dites génoises, qui étaient des tours corses d'époque génoise. Construites pour quoi ? Construites pour se défendre vis-à-vis des raids incessants des barbaresques et des pirates musulmans. Certainement pas pour accueillir les Ocean Vikings et les Aquarius.
Merci Nicolas Battini, président de Mossa Palatina, conseiller municipal de Bastia, allié du Rassemblement National, d'avoir été avec nous pour évoquer le projet de loi constitutionnelle visant à réformer le statut de la Corse. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à nos côtés. Merci Étienne Darjac et Valentin Gore d'avoir été avec moi pendant toute cette émission. Je vous dis à jeudi prochain et d'ici là, restez au frais.
Ça suffit maintenant.